Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre nouvelle série « Reviens vers celui qui t'a sauvé ». Reviens à celui qui t'a sauvé. Notre étude numéro 2, c'est le chrétien rétrograde qui commence à négliger la lecture de la Bible. C'est un des premiers symptômes du déclin. Passer régulièrement du temps dans la Sainte Parole a perdu son importance. Quelle différence y a-t-il si l'on saute un jour? Mais voilà, bientôt il ne s'agit plus d'un seul jour. Maintenant, ce sont plusieurs jours. Et puis ensuite, viendra une semaine. Et enfin, on abandonne tout à fait l'étude de la Sainte Bible. Il n'y a plus d'intérêt pour les Saintes Écritures, oui, aucun sentiment de besoin intérieur. Et quant à la prière, elle avait pris une part si vitale dans la vie spirituelle. Mais d'une façon ou d'une autre, on en a perdu l'habitude. La vie de prière devient spasmodique, puis elle disparaît complètement. Après tout, la prière ne paraît-elle pas être plutôt imprécise, insaisissable, parfois même mystique? En ce qui concerne la fréquentation des réunions de l'église locale, il y a également un relâchement progressif. Les messages sont au fond tellement ennuyeux. Et tant de gens ne sont que des chrétiens, il me semble, hypocrites. Oui, on semble remarquer uniquement les défauts de chacun. C'est ce que fait chacun. On essaye de remarquer les défauts des autres. Peut-être vaudrait-il mieux ne plus y aller du tout. Voyez-vous, les vrais chrétiens finissent par être peinés de son état et ils essayent de renouer contact avec cet homme ou avec cette femme. Mais le ou la déserteur finit par couper les ponts. À présent, quand je dis « il », bien vous avez compris, ça veut aussi dire « elle ». À présent, il est carrément mal à l'aise parmi les croyants. Il trouve ses amitiés et ses plaisirs de plus en plus en dehors du cercle de l'Église. Au début, cela semble un peu gênant de participer aux choses que ses amis chrétiens ou sa famille appelaient mondaines. Mais bientôt, les intérêts sont levés. Le rétrograde se révèle d'être remarquablement fort et plutôt sûr de lui. Alors qu'il décline tout de même spirituellement, et c'est un fait, certaines voix s'élèvent sur sa route pour le mettre en garde. Les gens disent des choses qui le transpercent, alors même qu'ils n'en sont pas conscients. Ils perçoivent des signaux d'alarme dans les lectures et à la télévision, mais ils passent outre, sans changer de cap. Eh bien oui, la joie de son salut a totalement disparu. Disparu depuis bien longtemps. Et vous l'avez compris, quand je dis « il », ça veut dire « elle », il était capable et avaient l'habitude de parler du Seigneur Jésus-Christ avec l'intelligence et enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme. C'était autrefois. Ils ne pourraient plus en faire autant maintenant, du moins plus avec cet accent d'enthousiasme d'autrefois. Il avait également l'habitude, oh oui, de chanter joyeusement des chants chrétiens. En fait, bien sûr, ils chantent parfois encore, mais ces chants ne sont plus du même recueil. Alors il a adopté une attitude critique face à la vie en général. C'est peut-être pour cette raison-là que rien ne va bien pour lui. Il ne semble avoir que des ennuis. Si seulement les choses pouvaient changer. Et c'est ainsi qu'il en veut à tout le monde. Alors qu'il était courtois et aimable autrefois, eh bien maintenant, il est dur et maussade. Au début, il lui était extrêmement difficile de s'engager à nouveau dans le péché. Mais désormais, il n'a plus aucune réticence. Puis maintenant, il décide d'aller, pourquoi pas, jusqu'au bout. Et pour se justifier, il se lance dans une série compliquée d'arguments. Chose étrange, il trouve même des versets bibliques, incroyables mais vrais, pour soutenir sa manière de vivre. Et il se convainc que beaucoup de chrétiens, même dévots, sont au fond hypocrites et font des choses bien plus pires que lui. La plupart des chrétiens sont trop légalistes. Voilà le problème. Et ses parents ont d'ailleurs été trop sévères avec lui dans son enfance. Alors il finit par dire que certains péchés n'en sont pas, car ils sont faits, soi-disant, par amour. Je répète, parce que c'est une nouvelle tendance, ces gens-là, que ce soit un homme ou une femme, finissent par dire que certains péchés n'en sont pas, car ils sont faits par amour. Même des chrétiens ultramodernes pensent ainsi. Alors il veut prouver qu'il n'y a aucune différence entre le bien et le mal. En réalité, il est très malheureux. Il en sait trop pour être heureux dans ce style de vie. Mais il ne l'admettra jamais. Et en bon acteur, il peut afficher un visage détendu. Il ne voudrait surtout pas perdre la face et reconnaître sa misère intérieure. Il mène constamment une double vie, essayant toujours de cacher la réalité avec la peur lancinante d'être découvert. Peut-être même a-t-il recours au pot de vin ou au-dessous de table afin de se protéger, pourquoi pas. Parfois, il est surpris de se trouver dans des situations qui lui répugnent. Il admet maintenant vivre dans des conditions qu'il aurait dénoncées autrefois. Il réalise que l'ami chrétien le plus démuni est bien mieux loti que lui. Mais il semble être pris au piège et il le supporte avec résignation. Son langage a aussi beaucoup changé, et cela est si évident. que certains amis incroyants le blâment en lui disant « Rappelle-toi, autrefois, tu parlais plutôt correctement. Si tu t'entendais à présent, oh là là, cela fait terriblement mal d'être l'objet d'une injure qui est faite par des libertins. » Et s'il n'y avait que cela, hélas, il y a aussi des occupations manquées de témoigner. Tant de ses amis ont un besoin spirituel profond. Et que peut-il dire? Certains même viennent lui poser des questions, laissant une porte largement ouverte pour parler du Seigneur. Mais ses lèvres restent fermées. Et à plusieurs reprises, il a essayé timidement d'apporter une aide spirituelle, mais quelqu'un lui a dit « Si vous croyez cela, que faites-vous là ?» Et après cela, il a jugé évidemment d'être préférable de se taire. La chose la plus troublante est qu'une fois, en tout cas, il est tombé beaucoup plus bas que bien des incroyants. Il est donc stupéfait quand il y songe. Il aimerait beaucoup en parler à quelqu'un. Mais voyons, qui pourrait le comprendre? Il garde alors tout pour lui. De plus, il est un peu étonné de constater à quel point l'amour se transforme en haine. Maintenant qu'il pense à son partenaire dans le péché, il le haït, il le hait aussi profondément qu'il disait l'aimer auparavant. La vie semble donc être devenue une routine. Il travaille plus dur que jamais, mais il ne semble aboutir à rien. L'argent file entre ses doigts et ses poches semblent percées. Des dépenses inhabituelles surgissent, telles les réparations, par exemple de la voiture, et même un incendie qui a eu lieu. Et puis, voilà que le montant des honoraires, surtout des honoraires médicaux, a été particulièrement élevé, car il a dû souvent faire appel aux médecins et a dû passer toute une série d'examens. Jusqu'à présent, aucun trouble organique n'a été décelé, mais la douleur est toujours présente, ainsi que les autres symptômes. Alors il vit avec l'espoir que sa situation financière évoluera peut-être bientôt. Les choses ne peuvent continuer ainsi. Peut-être que si son partenaire mourait, va savoir, eh bien cela résoudrait le problème, puisqu'ils sont associés. Il attend des obsèques qui malheureusement tardent à venir. Voyons, peut-être, pourquoi pas, ses propres obsèques résoudraient-elles le problème? Alors il commence à y penser et en même temps songe à en finir avec la vie. Mais il n'a pas osé aller plus loin dans cette voie, pour le moment. Chers amis, tôt ou tard, une crise va se produire. Si quelqu'un est un incroyant authentique, il ne peut indéfiniment vivre loin de Dieu. Il doit avoir un moment où il touche le fond, la lie, et le néant. Ce fond peut être une tombe ouverte un jour glacial d'hiver. Alors que ce croyant suit du regard un cercueil, un petit cercueil blanc, que l'on descend en terre, un enfant. Alors il peut être, peut-être, c'est un accident dans lequel il a été miraculeusement le seul rescapé, car il était en voiture. Voyez-vous, cela peut prendre la forme même d'un lit d'hôpital, où il a tout son temps pour réfléchir et pour ruminer sur sa situation, ou rien de tout cela, mais simplement la fin de l'endurance humaine, le moment où l'homme va abandonner tout espoir de résoudre ses propres problèmes. En un mot, c'est une période de désespoir et de frustration extrême. Tout combat supplémentaire semble donc vain. Toutes les sortes, on peut dire, tout a été essayé, toutes les sorties sont maintenant bloquées. Alors, à cet instant précis, une voix commence à chuchoter. Sache qu'il n'y a plus d'espoir. Ce n'est absolument pas la peine d'essayer. Tu ferais mieux d'abandonner. Il ne te reste qu'à coopérer avec l'inévitable. De toute façon, tu sais que les choses ne pourront plus être ce qu'elles étaient. L'oiseau dont l'aile est cassée ne volera plus jamais aussi haut. En vivant donc dans le péché, tu as laissé passer le jour favorable. Tu as franchi maintenant le point de non-retour et l'écho répète sans cesse. C'est sans espoir. Il n'y a aucune issue. C'est irrévocable. C'est devenu totalement impossible. Mais voilà que dans cette heure sombre et solitaire, une autre voix se fait entendre qui proclame une promesse beaucoup plus joyeuse. Cette voix dit : sache qu'il y a un moyen de revenir à Dieu. Car la porte est toujours ouverte. Le passé peut être oublié et effacé. La culpabilité accumulée par la multitude de péchés peut être ôtée en un seul instant. Il peut y avoir un nouveau commencement. Et les choses peuvent redevenir aussi belles qu'avant. Peut-être même plus belle. Dieu, il est absolument capable de rendre les années que les sauterelles, les criquets ont dévorées. Joël chapitre 2, verset 25. Donc, Dieu ton Père a maintenant une solution pour le cas le plus désespéré. Et pourquoi, oui, pourquoi, ne reviens-tu pas à la maison de ton père? Viens, et alors le grand moment de la décision est là. Le croyant est maintenant déchiré par des conflits émotifs. D'un côté, il y a la honte d'admettre le péché et l'échec. De l'autre côté, c'est le désir irrésistible de revenir à la maison et de remettre tout en ordre. dès qu'il songe à faire ce demi-tour, une légion de démons semble de le retenir. Alors il s'étonne de ce qu'un corps humain puisse renfermer tant de tensions violentes et opposées. Et une fois de plus, il entend, oh oui, il entend la voix de Dieu. Et celle-ci n'est ni dure, ni vindicative, mais bien au contraire, cette voix est tendre et aimante. Elle dit, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel et dites-lui, tu pardonnes toutes les iniquités et tu nous reçois favorablement, ou si nous t'offrirons l'hommage de nos lèvres. Osée, chapitre 14, versets 1 et 2. Et puis ensuite vient l'instant de la résolution. La digue érigée par toutes les tensions s'écroule. Les larmes se mettent à couler, accompagnées des sanglots d'un cœur brisé. Le rétrograde, fier et endurci, est prosterné aux pieds du Sauveur. Bientôt, il parle à Dieu, les lèvres tremblantes. Il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Oui, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici donc, je suis né dans l'iniquité, car ma mère m'a conçu dans le péché. Mais, Éternel, mon Dieu, mon Père, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à tous ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Ô Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, versets 1 à 19. Ensuite, il est dit dans Saint Luc, chapitre 15, versets 18 à 19, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis donc plus digne d'être appelé ton fils. Alors traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Une impression de soulagement immense se fait maintenant. Un fardeau a été totalement enlevé. Une grande lumière s'est mise à briller. Ça, c'est l'aurore. L'aurore d'un jour nouveau. Et voilà qu'il se souvient. Il se souvient des paroles de l'apôtre Jean qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1er épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Alors il saisit cette promesse comme si tout devait en dépendre. Et ensuite, il se souvient comment le fils prodigue, en son temps, est revenu chez son père. Et quel merveilleux accueil, on peut dire un accueil royal, l'attendait. Et il se leva et alla vers son père. Il alla donc vers son père. Et comme il était encore assez loin, voilà que son père l'a vu, et son père fut ému de compassion. Son père courut pour se jeter à son cou et pour le baiser, pour l'embrasser. Et le fils lui dit, « Mon papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez, apportez vite la plus belle robe et vous allez l'en revêtir. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Et ensuite, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Ils ont donc commencé à se réjouir. » Saint Luc, chapitre 15, versets 18 à 24. Il songe particulièrement à ces mots merveilleuses qui disent que son père, rappelez-vous, son père courut, son père se jeta à son cou et l'embrassa. Et là, il a réalisé que c'est ce qui lui est aussi arrivé. Le Père Céleste, Yahvé l'Éternel, le Dieu de l'univers, l'a vu alors qu'il était encore bien loin. Il courut donc pour le serrer dans ses bras et pour l'embrasser. Il comprend maintenant le sens de ces mots qui veut dire car il se réjouit maintenant du baiser de son père. Oui, oui, rappelez-vous, la plus belle robe lui a été donnée. Un anneau d'un très grand prix lui a été mis au doigt. Des chaussures magnifiques ont été mises à ses pieds. Et sans oublier le veau gras. Nous pouvons donc tous dire maintenant, gloire soit rendue à l'Éternel, à notre Dieu. Chers amis, la suite de notre rétrograde se trouve dans le CD numéro 3, pour demain matin, Dieu voulant. Maintenant, je voudrais vous transmettre quelque chose que l'Esprit-Saint m'a donné pour vous transmettre, pour vous donner. Et ce quelque chose, c'est pour fortifier votre éducation spirituelle, pour vous aider à mieux comprendre, mais en même temps aussi pour vous encourager, car certains d'entre vous sont abattus, sont fatigués. Alors, écoutez bien. Il est dit dans Saint Jean, au chapitre 10, verset 10, « Jésus, tu es venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. » Saint Jean, j'ai dit chapitre 10, verset 10. Oui, la vie, qu'il s'agisse de l'esprit, de l'âme ou du corps, c'est une vie abondante, joyeuse et puissante. Voilà donc ce que Jésus est venu vous apporter. Ne pensez-vous pas que sa douleur a été grande de voir si peu d'âmes accepter ce don merveilleux de l'amour suprême. Et oui, le don par excellence, gratuitement, offert à tous. Et personne, pour avancer la main et pour le recevoir. Est-ce vraiment possible? L'homme se détournerait-il définitivement pour le mépriser, pour le rejeter, rejeter ce don que Jésus te fait, le plus grand que le ciel puisse faire à la terre, c'est celui de la vie dans toute son abondance. Que en ce qui vous concerne, vous qui écoutez maintenant, il n'en soit pas ainsi. Oui, hâtez-vous de recevoir et de tout mettre à profit. Et maintenant, prions ensemble. Prions. Ô notre Père céleste, chacun de nous, en cet instant même, peut-il te dire « Mon cœur est disposé, Seigneur, je te célébrerai. » Peut-il dire cela? Chacun de nous peut-il ajouter avec le psalmiste « Pour moi, approcher de Dieu, c'est tout mon bien. » Pendant le cours des heures qui s'achèvent, avons-nous cherché à nous approcher de toi? Et ce saint exercice est-il pour nous un véritable bonheur? On s'approche de toi par la prière, soit publique ou secrète. On s'approche de toi par la lecture et la méditation de la Sainte Parole éternelle, par des pensées sérieuses, par des réflexions salutaires, par des mouvements de l'âme que le Saint-Esprit produit en elle. Mais on s'en approche aussi en conservant au milieu de l'activité de la vie le sentiment de ta présence, ô Seigneur, alors que l'occasion multipliée, oui, combien d'occasions multipliées n'avons-nous pas de nous approcher de toi aujourd'hui et de reconnaître l'étendue de ce merveilleux privilège. Si nous sommes heureux et comblés de tes bienfaits, nous t'en bénissons avec action de grâce, et notre félicité s'en accroît encore. Si nous sommes éprouvés, de quelque manière que ce soit, eh bien nous sentons aussi que ces épreuves nous sont dispensées par la main d'un Père aimant. Et cette même main nous soutient et nous fortifie dans les inévitables difficultés et les froissements de la vie. Oui, dans les tentations qui sont si nombreuses qu'elles nous présentent, nous approcher de toi. Oui, elles nous empêchent parfois, à la place de nous présenter à toi, elles nous empêchent de venir à toi. Ô Seigneur, nous te demandons, ranime donc notre courage, ranime notre patience, notre espoir et notre persévérance à marcher vraiment dans la voie de tes commandements. Amen. Amen. Et chers amis, maintenant, j'aimerais vous transmettre quelques chants d'un très lointain passé, figurez-vous, on peut bien dire, en tout cas, plus d'un demi-siècle, en 1954. C'est déjà un bon moment. Évidemment, le son, la qualité, elle n'est plus la même. Avec le temps, on le comprend. Surtout qu'en ce temps-là, on n'avait pas les appareils pour enregistrer aussi bien qu'aujourd'hui. Alors, j'essaye de vous mettre ces quelques chants de ce lointain passé. Et soyez bénis, je le répète, car Dieu vous aime. N'oubliez surtout jamais cela. Dieu vous aime. Et il est donc de mon devoir de vous aimer également, de tout mon cœur. Et je vous serre maintenant dans mes bras, et je vous embrasse tous. Et je vous dis, soyez bénis. Et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Et maintenant, quelques chants de ce très lointain passé.
But heartaches and trouble. Thank you.